C'est l'histoire d'une langue singulière qui a longtemps été interdite. Une langue silencieuse où les mains et les yeux ont la parole. C'est une langue qui varie beaucoup selon les pays où elle est pratiquée et on en dénombre plus d'une centaine. La Tête au Carré consacre pour la première fois son dossier aux langues des signes. Avec mes invités, nous allons découvrir les caractéristiques de ces langues, évoquer le rapport des sourds à l'écrit et voir comment elles peuvent, ces langues, par exemple, traduire le vocabulaire de l'astronomie. J'attendais maintenant vos messages et vos témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, 7 prix Nobel et une médaille Fields dénoncent dans le monde donc un coup de massue porté à la recherche française. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Mathieu, oui, 256 millions d'euros en moins pour la recherche et l'enseignement supérieur cette année. Annonce faite hier et la grogne qui monte aujourd'hui dans les labos. On écoute les chercheurs dans un instant.
Et puis comme chaque mardi, nous retrouverons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy avec le cahier Science et Médecine du Monde. Stéphanie Texier réalise l'émission préparée par Emmanuel Fournier avec Dylan Beiner.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les langues des signes, c'est donc le dossier dans quelques minutes de La Tête au Carré. Bonjour à mes invités, Mélanie Hamm, Nicolas Tournardre et Dominique Proust. Bienvenue à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Mathieu.
Nicolas Tournardre, pour un linguiste comme vous, la langue des signes, c'est une langue à part.
Oui, c'est une langue à part parce qu'il y a une modalité visuo-gestuelle, mais c'est aussi une langue avec la complexité, la richesse des langues du monde.
Mélanie Hamm, vous êtes malentendante, maître de conférence à l'université Aix-Marseille, également auteur d'un livre qui s'appelle « Écoute ». Est-ce que l'écriture est une chose naturelle pour une personne malentendante ?
Naturelle ? Non. Mais ils ont un rapport très intime et créatif avec l'écriture, qui suppose un apprentissage visuo-gestuel avec la langue. Écrire pour eux, c'est parler en silence et se faire entendre.
Et écrire pour vous, hein, comme on le verra tout à l'heure. Dominique Proust, est-ce qu'on peut traduire tout le cosmos en langue des signes ?
Oui, et ça aurait pu être fait plus rapidement s'il n'y avait pas eu cette interdiction pendant pratiquement un siècle.
Incroyable, hein. On va y revenir sur l'histoire justement de cette langue, et ça s'est terminé il y a assez peu de temps, on le verra.
Ah oui, tout à fait.
Allez, on se retrouve avec les auditeurs pour ce dossier franceinter.fr, les messages et les questions, et le mot-clé l'attaque. Et c'est la colère des chercheurs français à la une de la science aujourd'hui suite à l'annonce d'une coupe budgétaire de 256 millions d'euros pour l'année 2016. Écoutez pourtant ce que disait le président François Hollande il y a 2 mois à peine à l'occasion de l'inauguration de l'espace Pierre-Gilles de Gênes.
En venant ici, c'est aussi la recherche française que je veux reconnaître et pour laquelle je veux démontrer quelle est la priorité de l'action que nous conduisons.
Des propos qui laissent perplexe aujourd'hui dans le monde, justement, daté de ce mardi. 8 grands scientifiques français, dont 7 prix Nobel et un médaillé Fields, signé donc une tribune dénonçant un suicide scientifique. Et ce matin, les conseils scientifiques de quasiment tous les grands instituts de recherche français s'associaient pour faire savoir leur indignation vis-à-vis de cette coupe budgétaire. En ligne avec nous pour en parler, Jean Jouzel, bonjour.
Bonjour Monsieur Villard, bonjour à tous.
Vous êtes l'ancien vice-président du GIEC, co-récipiendaire du prix Nobel de la paix 2007. Et puis avec nous en ligne également, Patrick Lemaire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur et porte-parole du mouvement Science en Marche. Jean Jouzel, dans cette tribune, vous écrivez donc, vous parlez de suicide scientifique. Le mot est fort, hein ?
Oui, parce que nous sommes dans un monde où, effectivement, la recherche est aussi compétitive. Il faut effectivement y consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et je crois qu'elle mérite, un soutien complet du pays parce qu'elle est aussi, je crois, le reflet du dynamisme d'un pays. Quand on regarde les grands pays, eh bien les grands pays, ce sont aussi ceux qui apportent beaucoup de soutien à leur recherche. Ça se traduit aussi par des créations d'emplois, par un dynamisme général, et donc je crois tout à fait dommageable, et nous croyons collectivement, tous ceux qui ont signé cette tribune, mais aussi largement toute la communauté scientifique, la Science en Marche interviendra tout à l'heure, que évidemment, dans la ligne de ce qu'avait dit le président de la République, qu'on a écouté Mathieu Vidard il y a quelques secondes, eh bien, la recherche doit rester une priorité qui n'écrase pas tout le reste, mais qui est effectivement, en tout cas, qui doit rester au niveau auquel nous étions, et il n'y a aucune motivation sérieuse pour, ces 256 millions d'euros qui sont supprimés, mais aussi c'est à peu près la même somme du côté de l'écologie, et là aussi ça me touche beaucoup d'ailleurs, je tiens à le dire, il n'y a pas que la recherche, l'écologie c'est à peu près équivalent comme suppression, en tout cas l'intention de supprimer des crédits, donc c'est très important.
Patrick Lemaire, cette coupe annoncée à 256 millions d'euros n'est pas actée définitivement, à quoi est-ce qu'elle correspond exactement ?
Alors,
si vous voulez, dans les budgets des organismes de recherche, donc la première chose, c'est que les organismes de recherche sont fortement ciblés. C'est 134 millions pour les organismes de recherche. Alors, pour le CNRS, si on prend l'exemple du CNRS, ce qui est proposé, c'est de couper 50 millions. 50 millions, c'est 10% des frais de fonctionnement du CNRS hors salaire. Alors, si vous voulez prendre une image avec un foyer, c'est, on dirait à un foyer que, en juin, vous n'aurez que 5 salaires sur 6 pour finir l'année. Et alors là où le cynisme est total, c'est que le gouvernement dit, mais ne vous en faites pas, vous avez des économies. Donc vous pouvez piocher dans les économies pour compenser ce salaire que vous ne toucherez pas. Donc 20% sur les frais de fonctionnement du plus grand organisme de recherche en France, c'est quelque chose d'absolument considérable.
Ça veut dire aussi pas d'embauche pour des doctorants potentiels à la rentrée ou des choses comme ça alors ?
Alors, ça veut dire effectivement que les campagnes d'embauche de chercheurs dans la recherche publique vont souffrir à un moment où ces carrières peinent énormément à rester attractives.
Jean Jouzel, vous êtes très inquiet également pour ces jeunes chercheurs ?
Oui, c'est vrai que c'est un des problèmes à la fois pour les jeunes chercheurs. Bon, dans notre organisme, c'est pareil. Hein, le CEA est en fait... je suis rattaché au CEA, je suis directeur de recherche émérite. C'est en fait l'organisme le plus touché, avec 64 millions d'euros dans la perspective. Et donc, je comprends bien sûr, au CNRS, dans tous les organismes, la première solution, c'est de retarder, sinon de supprimer les embauches cette année. Et c'est quand même terrible pour les jeunes que de jouer sur le fonctionnement. C'est de retarder des investissements. Et dans le monde de la recherche, eh bien, c'est à chaque fois, disons, perdre en dynamisme. Je me répète, mais je pense que la priorité, effectivement, c'est d'embaucher des jeunes chercheurs, de continuer, parce que sans ça, on donne un très, très mauvais signal par rapport à l'attractivité de la recherche et de vie de nos jeunes. Alors, nous avons besoin d'être attractifs collectivement par rapport aux jeunes générations, parce qu'il est important qu'ils s'engagent dans la recherche, qu'ils s'engouffrent, en fait, dans la recherche. C'est parce qu'un sacerdoce, c'est très difficile. Vous le savez, de rentrer chercheur au CNRS ou dans d'autres organismes maintenant. Les candidats sont encore là, mais à un moment, on les détournera de la recherche si des nouvelles de ce type se répètent, et j'espère qu'elles seront remises en cause, évidemment.
La solution, Patrick Lemaire, pour un jeune aujourd'hui, c'est de se tourner vers le privé ?
Ça serait une bonne option quelque part, parce que c'est important que les gens qui ont une formation par la recherche soient capables d'irriguer de leurs connaissances, de leurs méthodes aussi, l'ensemble de la société. Malheureusement, nous sommes dans un pays où les jeunes docteurs, contrairement à l'Allemagne, contrairement à de nombreux pays, ne sont absolument pas reconnus hors du monde de la recherche. Peut-être du fait de la dichotomie de notre système d'éducation supérieure, avec d'un côté les grandes écoles, qui donnent des formations courtes, qui permettent d'appliquer des théories qui ont été faites par des scientifiques, et puis des formations longues qui sont dévalorisées, le doctorat notamment. Alors, il faut bien voir que notre monde est de plus en plus complexe. On voit un gouvernement qui court pour essayer de contrecarrer dans l'urgence les effets de crise, alors qu'elles soient migratoires, climatiques, économiques. Mais ces crises, le seul moyen de les anticiper, le seul moyen de limiter leur effet, c'est de s'y prendre à l'avance, comme M. Ouzel peut le dire avec le GIEC. C'est de s'y prendre à l'avance, c'est d'avoir une capacité d'anticiper. Ça, c'est la science.
Dominique.
Donc, si on coupe la science, en gros, on est en train de couper le long terme pour essayer de résoudre des problèmes que les gouvernants n'ont pas réussi à anticiper.
Dominique Proust, ouais. une réaction, parce que je sais que ça vous touche aussi, évidemment.
Oui, je suis au CNRS, ouais. Et c'est absolument dramatique. Ça fait des années et des années que les crédits diminuent, que tout diminue au niveau de la recherche. Or, pendant ce temps-là, l'Allemagne a augmenté son budget recherche de 75%. Et si c'est une histoire de récupérer des milliards, ben on peut aller les chercher à Panama, ça serait beaucoup plus simple.
Patrick Lemaire, qu'est-ce que vous envisagez dans les semaines qui viennent si effectivement ces 256 millions disparaissent définitivement ?
Alors la première chose, c'est d'espérer que le gouvernement, peut-être dans un sursaut de clairvoyance, peut-être également la commission des finances de l'Assemblée, qui est au moment où on parle en train d'examiner ce décret, vont revenir sur leur position et ne vont pas ponctionner le budget de l'ESR.
Ça, c'est la version optimiste.
Ça, c'est la version optimiste, voilà. Et je pense qu'il faut quand même rester optimiste. On peut espérer que nos gouvernants vont, même s'ils ne comprennent pas grand-chose à la recherche, peuvent comprendre que c'est un enjeu international crucial pour le futur.
Et dans le cas inverse ?
Dans le cas inverse, ce que l'on voit actuellement dans la communauté scientifique, déjà, c'est que les mots sont en train de changer. C'est très rare d'avoir une tribune de prix Nobel qui va utiliser des mots aussi crus pour décrire le mépris d'un gouvernement pour la recherche. À quoi on peut s'attendre ? On peut s'attendre à ce que les scientifiques, qui finalement savent faire beaucoup de choses, appliquent leur méthode, mais maintenant commencent à l'appliquer sur l'action des politiques. Ça aurait probablement beaucoup plus de poids que de sortir dans la rue.
Jean Jouzel, c'est bien du mépris dont il s'agit que vous avez ressenti de la part
oui,
du gouvernement.
Oui, je ne sais pas si on en, je ne crois pas qu'on ait. Si peut-être on a employé le mot mépris, mais en tout cas on a parlé de coups de massue et de suicide, disons scientifique et industriel, parce qu'effectivement il s'agit de l'avenir de nos jeunes, de notre avenir collectif. Et je crois par moment, comme Patrick et comme Monsieur Proust, qu'effectivement, eh bien il faut un sursaut. Et moi aussi, je reste sur l'espoir que la commission des finances cet après-midi effectivement disent clairement que cette décision n'est pas une bonne décision, car elle n'est pas une bonne décision, c'est très clair, elle n'est pas une bonne décision pour notre communauté, pour tous les jeunes, pour notre vie de tous les jours. Il n'y aura plus rien pour fonctionner dans les laboratoires, les investissements ne seront pas là, les jeunes ne viendront pas, et donc c'est effectivement négatif, ça a été rappelé, par rapport à des pays comme l'Allemagne qui vont de l'avant, d'autres pays, la Corée, le Japon, même les États-Unis vont beaucoup plus rapidement dans le domaine de la recherche, et on voit aussi les résultats.
Voilà, Nicolas Tournard, un dernier mot pour terminer.
Oui, et on peut se demander qui va pâtir de tout ça, parce que ça va être sûrement, si vous voulez, les sciences humaines, les sciences fondamentales, les mathématiques, et par contre, les sciences très technologiques ne vont pas être si touchées, mais de toute façon, tout le monde va être touché, mais de façon pas tout à fait égale.
Merci beaucoup en tout cas, Patrick Lemaire, à suivre. Hein. On sera évidemment très attentifs aux actions de Science en Marche. Merci Jean Jouzel, donc à l'occasion de cette tribune publiée dans Le Monde, où cette prix Nobel et le médaillé Fields Cédric Villani s'émeuvent justement de ces annulations de crédit pour la recherche. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Axel.
Merci Mathieu.
Allez, à demain. Dans un instant, notre dossier sur la langue des signes.
Don't you do? Don't you? Don't you do?
Action avec Cassius à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Les langues des signes, donc c'est le dossier de l'émission aujourd'hui avec mes invités. Mélanie Hamm, vous êtes maître de conférence donc à l'université Aix-Marseille, chercheuse au laboratoire Parole et Langage du CNRS et vous avez publié en 2012 aux éditions Caleva. Écoute, Nicolas Tournard, vous êtes linguiste, professeur à l'université d'Aix-Marseille, au laboratoire CNRS de langue et civilisation à tradition orale. Et puis Dominique Proust, vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Paris-Meudon et ingénieur de recherche au CNRS. Les messages des auditeurs arrivent sur France Inter. Et sur le mot-clé, la TAC. Mélanie Hamm, vous êtes donc malentendante, on le disait tout à l'heure, et pour cette émission, donc, vous allez dialoguer avec nous en regardant nos lèvres. C'est comme ça qu'on va procéder ?
Absolument.
Ouais.
On peut dire que la langue des signes pourrait vous rendre service aussi à la radio.
C'est vrai ?
Oui, j'ai vu que votre collègue et vous communiquez de temps en temps.
C'est vrai.
Avec des gestes.
Absolument. Avec Axel Villard, effectivement, pendant la Une de la Science, on se passe beaucoup de messages avec le regard et avec les gestes. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on s'y mette. Votre vraie langue maternelle, quelle est-elle ? Est-ce que c'est le français ou est-ce que c'est la langue des signes ?
Vous allez rire. C'est l'alsacien.
C'est l'alsacien ?
Oui.
C'est votre langue maternelle, effectivement.
Ouais. En tout cas, c'est les premiers mots que j'ai dit.
Ouais.
Et ensuite, ma première langue, c'est la lecture et l'écriture.
Ouais.
Le français écrit.
Est-ce que vous parlez la langue des signes avec un accent alsacien ?
Ah, un petit peu.
C'est vrai ?
Oui, oui. Chaque langue a son accent, si on peut dire. Ouais. Actuellement, à Marseille, je suis en train de découvrir la langue des signes marseillaise.
Il y a l'accent marseillais aussi ?
Oui, il y a plein de soleil.
Incroyable. Ouais. Nicolas Tournard, donc ça, on va en parler aussi au cours de l'émission. On parle d'abord de la langue des signes au pluriel, avec toutes ses spécificités, jusqu'à dire donc qu'il y a même un régionalisme parfois aussi dans ces langues.
Oui, il y a énormément de variations. Il y a beaucoup, il y a probablement une centaine de langues des signes, un peu plus même dans le monde. Et puis, il y a beaucoup de variétés régionales. Et il y a en plus, très souvent, pour certaines langues, pas une standardisation totale. Donc, effectivement, on sait très bien de quelle région on vient. Oui. Et ça, c'est d'une certaine façon exactement comme les langues orales.
Oui. Donc, Mélanie Hamm, si vous rencontrez un Chinois malentendant, et s'il vous parle en langue des signes, vous n'allez pas le comprendre du tout ?
Ah, alors, si je vois un sourd chinois, au bout de 2 ou 3 jours, je le comprends.
Oui.
Parce que c'est une langue visuo-gestuelle. Donc, il y a une logique visuelle. Par exemple, la spatialisation visuelle. En haut, on comprend que c'est plutôt la réflexion, la pensée.
Mm-hmm.
Ce qui est au niveau des yeux, vous comprenez que c'est visuel. Hein, on regarde l'autre. Et puis, en bas, le cœur, vous comprenez que c'est aimé. Donc, il y a ça. Et puis, aussi... toutes les expressions qui se retrouvent, les configurations, certaines configurations comme beau et fleur, c'est une main qui s'ouvre devant vous.
Dans toutes les langues ?
Presque dans toutes les langues.
Ouais. Donc il y a quelques mots, quelques expressions qui sont universelles, mais il n'y a pas de langue des signes universelle.
La langue des signes n'est pas internationale, mais elle est plus internationale que beaucoup de langues vocales.
Ah oui, quand même, hein, Nicolas Tournard.
Oui, je crois que beaucoup de recherches doivent être encore menées. C'est-à-dire que on a tendance à dire que, comme ce qui est certain, c'est ce que vient de dire Mélanie, c'est que les communautés de sourdes arrivent à communiquer à un niveau de base, j'ajouterais. Mais que pour bien manier une langue des signes, pour bien manier la langue des signes chinoise ou la langue des signes tibétaine ou la langue des signes américaine, j'en parlais encore il y a très peu de temps avec un grand spécialiste de la langue des signes qui est lui-même sourd, eh bien il me disait qu'il avait beaucoup de mal à comprendre la langue des signes américaine. Donc il faut peut-être un peu nuancer. Par contre, une conversation de base, comme le disait Mélanie, en 2 ou 3 jours, on arrive à communiquer. Donc l'accès est plus facile que les langues orales, parce qu'en 2 ou 3 jours, on n'arrive pas à communiquer dans une langue orale.
Dominique Proust, si vous croisez un astronome chilien et que vous lui parlez en langue des signes, est-ce que vous allez parler le même langage et donner les mêmes gestes et les mêmes mots aux planètes, par exemple ?
Alors, rencontre un astronome chilien, je vais le faire demain soir à 18h à la gare Montparnasse. C'est bon. Un astronome de passage.
Mais ce sera pas l'an des signes.
Et qui est sourd.
Si. Ah, si. Ben voilà.
Alors, on communique. Bon, c'est une astronome qui est appareillée, mais on communique en langue des signes. Elle trouve que j'ai un accent français. Je trouve qu'elle a un accent, disons, ibérique, quoi. Ouais. Mais par contre, il y a toujours maintenant, il y a un point commun. Il y a quand même beaucoup de signes correspondant à des termes récents, des technologies récentes qui sont maintenant parfaitement universelles.
Par exemple,
quand on prenait une photo, tous les pays, on appuie sur un appareil fictif, un appareil photo. Mais par exemple, comme les technologies sont numériques, tous les pays font 1-0-1 pour indiquer que c'est un codage numérique, pas forcément binaire, mais que c'est le codage numérique. Tout le monde fait ce même signe. Ouais. Dans tous les pays, maintenant, c'est communément admis. Voilà.
Ouais.
Et tous les ordinateurs, enfin, microprocesseurs, tous ces termes-là sont maintenant, ce sont des mots vraiment universels.
Ouais. Alors, il faut dire que vous organisez régulièrement des soirées astro-sourds chaque mois, et vous avez signé, vous avez dirigé, en tout cas, le dictionnaire encyclopédique d'astronomie pour la langue des signes française, que vous avez offert d'ailleurs à Nicolas Tournard et à Mélanie Hamm. Ça, c'est un chouette cadeau pour vous, Nicolas Tournard, parce qu'il y a ce vocabulaire de l'espace.
Et en plus, ça montre que les langues des signes peuvent véhiculer des concepts extraordinairement complexes et que, et c'est ça que beaucoup de gens ne savent pas, y compris parfois parmi des collègues linguistes, les langues des signes, parfois, comme la langue des signes française, peut véhiculer des concepts de façon plus facile que certaines toutes petites langues orales qui n'ont pas développé de numéros, qui n'ont pas développé, si vous voulez, certains concepts mathématiques de base. Eh bien, voilà, certaines langues des signes sont capables d'aller plus loin que certaines langues orales.
Il y a cette richesse, effectivement. Comment on dit Saturne, tiens, par exemple, Dominique Proust, en langue des signes, belle planète avec de beaux anneaux?
Oui, et ce sera en même temps un hommage à André Braïc, hein, dont nous parlions tout à l'heure.
On aurait pu donner Neptune alors, hein, pour lui rendre hommage.
Oui, Neptune, c'est pas tout à fait le même signe, mais Saturne, vous faites un ballon avec les deux mains, l'une au-dessus de l'autre, et autour de ce ballon, vous allez faire un anneau avec la main à plat. Vous faites le tour de la planète comme ça pour indiquer l'anneau de Saturne.
Ouais. Voilà. Et le boson de Higgs, par exemple, vous connaissez, vous, le boson de Higgs, Mélanie, en langue des signes ou pas?
Alors,
le boson de Higgs, je peux répondre si...
Non, Mélanie ne le connaît pas apparemment.
D'accord.
Comment on le décrit?
Alors, on décrit qu'il s'agit d'une particule découverte au LHC, donc on fait tourner son doigt.
L'anneau,
Et on épelle le nom de Higgs encore. Ouais. Il n'y a pas encore un code. Donc on fait particule, anneau et on épelle Higgs.
Ouais. Ouais. Donc ça, c'est très compliqué quand même, le boson de Higgs. Ça prend beaucoup de temps, en tout cas, pour l'exprimer, non?
Non, parce que vous faites, alors c'est comme en informatique, vous faites un alias. Alors, vous définissez le boson de Higgs et après vous allez l'appeler petit b, par exemple. Et dans une conférence, vous faites simplement la lettre b.
D'accord.
C'est un raccourci.
Bon, mais la première fois est un petit peu plus longue, en tout cas, quand on découvre le mot, hein.
Oui, et puis il y a toujours la possibilité d'épeler, c'est-à-dire d'emprunter à l'écrit, par exemple à l'écrit français, par exemple, à l'aide de l'alphabet dactylologique. Et donc on emprunte en fait aussi de l'écrit quand on en a besoin. Mais comme le rappelait Dominique Proust, on peut très bien s'en passer, car après on fait un raccourci et c'est très bien compris.
Ouais. L'histoire de la langue des signes, justement, Nicolas Tournard, il faut en dire un mot parce qu'elle est étonnante, fascinante, révoltante aussi d'ailleurs. Comment est-ce qu'on a découvert d'abord cette langue des signes? Qui l'a mis au point?
Les langues des signes émergent, alors elles ont des histoires différentes, mais elles émergent naturellement. Il suffit que des communautés de sourds se réunissent souvent dans des institutions, mais parfois simplement que des communautés se mettent ensemble, plusieurs sourds se mettent ensemble, et le langage fait partie de la nature humaine, donc les gens vont se mettre très vite à inventer des signes. On a même vu, là c'est assez bien étudié, l'émergence d'une langue au Nicaragua, et donc cette langue s'est produite parce que plusieurs sourds se sont réunis dans une même institution. Mmh. Évidemment, vous faisiez allusion au fait que à la fois la langue des signes a connu un développement assez important en France, mais elle a aussi été réprimée violemment pendant très longtemps.
Ouais, c'est ce que vous disiez, Mélanie, tout à l'heure. Pendant longtemps, la langue a été interdite sur notre territoire.
C'est Dominique Proust qui l'a dit, oui.
Ouais.
Mais aujourd'hui, elle est reconnue comme une langue, mais elle n'est toujours pas inscrite dans la Constitution française. La France n'a toujours pas ratifié la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Un pays qui néglige ses langues régionales a volu.
Ouais. Et c'est donc une reconnaissance légale depuis 2005 seulement, effectivement. Et donc ce problème de reconnaissance auprès des autres langues, hein, en tout cas. Allez, on se retrouve dans un instant, les messages des auditeurs, et puis on poursuit notre discussion. Franceinter.fr.
Alors ça avance cette petite campagne. J'ai une belle affiche, hein.
Vous voulez un morceau de fromage, monsieur le maire?
Oh non, merci, sans façon, non. J'étais juste venu féliciter votre père, voilà.
Monsieur le maire te félicite.
Voilà. Qu'est-ce qu'il dit?
Il vous remercie.
Ah, mais c'est très gentil, moi aussi. Bon, je vais peut-être vous prendre un petit morceau, là, de...
Ouais.
Pas trop fort, hein.
Vous inquiétez pas.
Alors, dites... Alors. Votre père, il pense vraiment que les lycéens vont voter pour un sourd?
Pourquoi ils voteraient pas pour un sourd? Ils ont bien voté pour un con.
Voilà, extrait de La Famille Bélier, donc ce film sorti en 2014 pour parler de la langue des signes cet après-midi avec Mélanie Hamm, Nicolas Tournardre et Dominique Proust. Et vos messages sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Mélanie Hamm, vous avez aimé ce film, La Famille Bélier, ou pas? Parlons franchement.
Ah, c'est un film qui a été très très critiqué par les sourds et bon, alors avant d'y aller, j'étais au fait un petit peu de ces critiques.
Ouais.
Est-ce que ce film renvoie vraiment la réalité de la vie des sourds? Je ne crois pas. Chaque sourd est différent, chaque sourd a son vécu. Il y a des sourds qui aiment moraliser, il y a des sourds qui ne sont pas bilingues, il y a des sourds qui signent, il y a des malentendants, des devenus malentendants qui préfèrent ne plus parler et signer. En plus, l'héroïne de ce film, c'est une entendante, je dirais pas profonde, hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression des sourds.
Non.
Entendant profond.
Qu'est-ce que ça veut dire alors?
Vous savez, les médecins, ils aiment bien classifier les sourds.
Oui.
Hein, il y a le sourd léger, le sourd sévère, le sourd profond.
D'accord, ok.
Donc le sourd profond, il faut absolument le soigner et le rendre entendant. Et ce que répondent les sourds, ils n'ont peut-être pas tort, c'est qu'il y a beaucoup d'entendants profonds.
Ouais, d'accord, très bien. Retour à l'envoyeur. Vous entendre, c'est quand même une façon aussi de comprendre que tous les sourds ne sont pas muets.
Absolument.
Et ça, c'est très important.
Ni sourd, ni baragouineur, ni illettré, ni dyslexique.
Ouais.
Un sourd peut entendre à sa manière. Il y a un sourd profond sans implant cochléaire, sans appareil auditif. Il peut faire de la musique.
Ouais.
Il peut chanter. Il peut aimer les sons. J'ai un ami qui est devenu sourd vers l'âge d'un an, hein, mais très sourd profond. Et il aimait beaucoup il aimait la musique comme il l'entendait. Il s'imaginait la musique et le bruit de la mer. Un jour, vers 30 ans, il a décidé de se faire opérer, hein. Donc il a eu un implant cochléaire. Et vous savez ce qu'il me dit? C'est fou, Mélanie. Je m'imaginais le son de la mer. C'était presque ça.
Et c'est ce monde entre deux rives aussi que vous décrivez dans votre livre « Écoute hein ». C'est d'ailleurs votre cas puisque vos parents n'ont su qu'à l'âge de 7 ans hein, que vous étiez malentendante. Vous dites d'ailleurs que votre frère jumeau vous prêtait ses oreilles, c'est une belle expression aussi. Et vous aviez vraiment ce sentiment d'être entre ces deux mondes en permanence. Est-ce que c'est toujours le cas d'ailleurs pour vous aujourd'hui?
Oui, toujours, bien sûr. C'est une bénédiction du ciel pour moi d'avoir été épargnée pendant 7 ans, de ne pas être obligée d'aller dans les hôpitaux, etc. Mais bon, ça c'est mon vécu. Hein. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas le fait de ne pas entendre qui est douloureux, c'est le fait de devoir porter des appareils auditifs ou de porter le casque que je porte là maintenant pour la radio.
Ouais, pourquoi? Vous êtes assez critique sur le miracle des implants cochléaires, par exemple, dont on parlait à l'instant?
Oui, alors ça peut marcher pour certains, encore une fois, hein, chacun a son vécu, ça dépend des parents aussi, comment ils s'impliquent dans cet événement. Mais je pense, en tout cas, en ce qui me concerne, encore une fois, chaque sourd est différent, il y a autant de sourdités qu'il y a de sourds. Mais en ce qui me concerne, si je suis parvenue à ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas grâce aux médecins, ce n'est pas grâce aux appareils auditifs, c'est grâce à la voix intérieure que j'entends.
Je vais vous citer ce que vous écrivez justement dans « Écoute ». « Née entendante, je ne vivrais pas aussi ardemment, je n'aurais pas fait grand cas de mots et ce livre n'eût pas été écrit. Je répète, ma malentendance, c'est ma force, je ronge en dedans, je rage en dehors. Les sons sans sens me poursuivent jour et nuit, je les broie, je les fourre dans une malle. Certains soirs, j'ouvre le coffre, je les retrouve, je les file et les effile pour qu'ils deviennent soi, puis je les refoule jusqu'à ce qu'ils recouvrent dans l'illumination de ma nuit. » Nicolas Tournardre, voilà, c'est beau.
Mélanie est en même temps poète et elle a ce rapport au langage qui est très fort parce qu'elle est, comme elle est multilingue, elle a la langue des signes, elle a également le français écrit, merveilleux, et puis aussi, elle arrive à oraliser de façon très claire comme la France entière peut l'entendre, et également elle connaît en plus l'alsacien un petit peu, et donc voilà, donc il y a cette richesse linguistique.
Alors vous, Dominique Proust, c'est un peu votre deuxième langue aussi, hein, vous le dites, la langue des signes. Hein.
Oui, j'ai eu beaucoup de... Moi, je suis entendant, j'entends très bien, mais dans ma famille, il y a eu beaucoup de sourds, et j'ai eu un grand-oncle qui a été écrasé par un train qui n'a pas entendu venir, par exemple. Et beaucoup de sourds, oui. Donc c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma famille, la langue des signes. Et par exemple, mes enfants utilisaient la langue des signes. Et je vais me permettre de donner un petit exemple personnel. La personne avec qui je vis a des gros problèmes de santé actuellement. et notamment sa difficulté à s'exprimer. Donc, tout en travaillant avec des orthophonistes, elle est notre communication est bien soutenue par la langue des signes quand elle a quelque chose à me dire.
Ouais. Et il y a de plus en plus d'ailleurs d'entendants qui apprennent aussi aujourd'hui la langue des signes. C'est intéressant aussi, Mélanie Ham, ce phénomène, sans avoir forcément d'ailleurs de personnes malentendantes autour d'elle, hein.
C'est merveilleux, mais j'ai envie de dire, on fait beaucoup d'efforts pour les entendants. Mmh. Hein, la possibilité d'apprendre à la langue des signes gratuitement à l'université, il n'y en a pas tant que ça, hein, mais il y en a quand même quelques-unes, notamment à Aix-Marseille Université. Cette possibilité, elle est là surtout pour des entendants,
ouais.
Pas tellement pour les sourds. Moi-même, en tant que malentendante, j'ai dû payer avec mes propres moyens pour pouvoir apprendre cette langue. Donc c'est pour ça, je ne crois pas avoir répondu à votre question, c'est pour ça que la famille Bélier, c'est pas la réalité des choses. Il y a beaucoup de sourds, malheureusement, qui ne peuvent pas apprendre la langue des signes mm-hmm. de façon académique.
Mais est-ce que vous reconnaissez quand même que ce film a eu au moins comme vertu de sensibiliser le public à ces questions?
Oui, mais à quand la tablette qui peut traduire ce que vous me dites là,
ouais.
par écrit,
ouais.
à quand ce genre de technologie
concrète et utile?
Voilà, merci. Ouais. Vous êtes un bon écouteur.
Merci beaucoup. On pourra d'ailleurs signaler aux auditeurs que cette émission, celle que nous sommes en train de faire en direct en ce moment, elle sera disponible bientôt en version retranscrite, justement, pour toutes les personnes malentendantes qui nous écoutent. Le temps de le faire, ça demande un petit peu de temps, mais on va essayer de le faire le plus vite possible dans la semaine. Nicolas Tournardre, les questions des auditeurs. D'abord, un tout petit mot, parce qu'il y a un poste de professeur de langue des signes qui a été donné en France là, cette année. Il y a beaucoup de professeurs ou pas, ou c'est au contraire très, très marginal?
Il y en a, et il y a des gens également au CNRS. Donc il y a régulièrement, mais c'est, vous savez, les postes de maître de conférence et de professeurs sont au compte-gouttes véritablement.
Ouais.
Donc effectivement, il y en a encore un cette année. Voilà, mais c'est malheureusement très, très rare quand même.
Olivier demande, qu'en est-il de la syntaxe de la langue des signes? A-t-elle une importance entre malentendants de pays différents?
Oui, alors ça, c'est quelque chose d'important à comprendre, c'est que les langues des signes ont véritablement des grammaires différentes, pas seulement du vocabulaire, ouais. et là, il faut insister peut-être un peu là-dessus, c'est-à-dire que, par exemple, un certain nombre de langues des signes ont le verbe en position finale, mais d'autres ont le verbe plutôt en position médiane, donc déjà au niveau de la position du verbe, il y a des différences.
Il faudrait comme dans les langues étrangères.
Exactement, hein. Il faudrait dire aussi que les langues des signes ont bien des différences catégorielles entre le nom, le verbe. Les adjectifs, c'est surtout ce qu'on appelle des transferts de forme et de taille, mais il y a les catégories de noms et de verbes sont vraiment clairement distinguées, aussi bien en langue des signes française, en langue des signes en ASL, en langue des signes américaine. Donc, il faut insister sur le fait que les langues des signes ont des grammaires complexes, et pour terminer avec ce sujet, je dirais que ces grammaires impliquent à la fois des pointages, elles impliquent le regard, elles impliquent la mimique faciale, et elles impliquent, si vous voulez, des phénomènes qui sont évidemment pas les mêmes phénomènes que ce qui est impliqué dans les grammaires des langues, par exemple, des suffixes, des préfixes, des auxiliaires, mais on retrouve des phénomènes grammaticaux très spécifiques aux langues des signes qui sont différents selon les langues des signes.
Dominique Proust. Hein.
Oui, dans ce que disait Nicolas, quelque chose est très important, c'est l'expression du visage, et c'est d'ailleurs ça qui a été la cause de l'interdiction de la langue des signes, de la suppression en 1875, parce que la bonne société post-second empire considérait que c'était théâtral, que c'était très mal exprimer, remuer les mains, remuer le visage, c'était tout à fait inconvenant.
Romain demande, où dois-je me rendre pour apprendre le langage des signes?
Ah, c'est ça, question, le problème. Ça. Ouais, justement, il n'y a que de petites structures permettant à certains d'apprendre la langue des signes, notamment les sourds et les malentendants, comme je disais avant. Hein, il faut rappeler un chiffre qui est important, 95% des sourds sont issus de parents entendants. Donc non-signeurs. Donc n'ont pas la possibilité d'apprendre la langue des signes. Ce qui fait dire à certains sourds, hein, avec une douleur dans le cœur, qui disent « je suis orphelin de langue. Je n'ai ni mère, ni grammaire de langue des signes ». Et donc il faut rappeler ça, c'est important.
Et donc, il y a ce problème aussi des infrastructures.
Absolument. Donc, il y a très peu de, il y a quelques petites structures. Par contre, voilà. Alors, ça, il faut aussi le rappeler. En France, on met beaucoup, beaucoup d'argent pour le médical, hein. Mais pour des petites formations comme ça, comme la langue des signes, qui ne coûte que, 1500 euros en 5 ans, peut-être un petit peu plus. Pour ça, on ne fait rien. Ce n'est pas gratuit.
Dominique Proust.
Oui, je suis entièrement d'accord. C'est difficile. Il y a à Paris, il y a essentiellement l'Académie de la langue des signes dans le 19e arrondissement et IVT, International Visual Theatre, qui forme à la langue des signes et ce sont des stages tout à fait formidables. Mmh.
Et ailleurs en France, donc.
Mais ailleurs en France, faut toujours aller un petit peu à la pêche. Alors, il y a des villes où il y a une tradition de langue des signes, comme Poitiers ou Lyon, etc. Mais pas partout.
Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres questions pour vous de la part des auditeurs franceinter.fr pour nous retrouver sur ce dossier.
Skateboarding sous morphine à la tombée de la nuit. Charlie Chaplin vole un vélib pour m'escorter à Belleville. Gainsbourg est de retour pour réparer les étoiles explosées sous mon crâne de nouveau-né en paix. Oh mes héros, qu'est-ce que c'est beau de se faire sauver la vie à la tombée de nuit. Oh mes héros, qu'est-ce que c'est beau de se faire sauver la vie à la tombée de nuit. Oh capitaine, mon capitaine, le voyage n'est pas terminé. I'm your man, walk with men, je suis libre, comme des livres sauvés. Jean Slim répéto, c'est mon costume d'auto super héros. Un grand chapeau pour garder les rêves au chaud. Oh mais sauver la vie à la tombée de nuit. Oh mes héros, qu'est-ce que c'est beau de se faire sauver la vie à la tombée de la nuit. Sous la neige et sous la pluie, à la tombée de la nuit. Un policier me regardait passer. Un oiseau s'est posé au bout de son fusil et je me suis envolé.
Et c'est Dionysos à l'instant, dans la tête au carré, la langue des signes dans notre dossier aujourd'hui avec Mélanie Hamm, Nicolas Tournardre et Dominique Proust. Vos messages, tiens, il y a un petit message pour vous, Mélanie, de la part de Michel, qui nous dit c'est un grand plaisir d'écouter Mélanie, son rythme, sa prononciation, son léger accent ont beaucoup de charme, et c'est un bonheur de l'entendre sur le fond et sur sa forme. Michel qui est conquis, apparemment pour vous.
Merci voilà. Michel.
Marina qui nous dit il existe également une méthode, un outil de communication pour les personnes sourdes, ça s'appelle la langue française parlée. Complétée, elle permet aux sourds de lire sur les lèvres et de s'adapter et d'accéder au français écrit plus facilement.
Oui.
Vous confirmez, Mélanie ?
Oui, mais c'est pas une langue, c'est un code.
D'accord.
C'est différent. Mais ça, effectivement, ça peut aider certains sourds à lire sur les lèvres.
Donc il y a moins de richesse grammaticale ou de vocabulaire ?
Il n'y a pas le bilinguisme.
D'accord.
Voilà. Et ça, on n'a pas tellement parlé du bilinguisme. On dirait que ça fait peur.
Le bilinguisme ?
Oui.
Pourquoi ?
Mais Vous ne trouvez pas qu'on ne fait rien pour que les gens soient bilingues?
Ouais. Mais alors vous parlez du bilinguisme de la langue française et de la langue signée, par exemple, c'est ça ce
Absolument.
Bilinguisme que vous évoquez?
Ouais. Et pourtant, ici les linguistes le savent, le bilinguisme n'a que des effets positifs sur la cognition, la créativité linguistique.
C'est vrai, absolument. Ça, on l'a dit souvent dans cette émission, Nicolas Tournardre.
Oui, bien sûr. Il y a toujours cette espèce de peur des langues, et alors que c'est une richesse très claire. Et Mélanie le prouve, même si elle préfère signer la plupart du temps. Et lorsque nous sommes en réunion à Marseille, où on a la chance d'avoir un département de langue des signes, avec Paris 8, ce sont les gros départements de langue des signes dans les universités françaises. Il y en a aussi au CNRS. Mais dans les réunions, elle se fait traduire en langue des signes la plupart du temps, et c'est une richesse aussi.
J'aimerais ajouter un point. ce sont les médecins. Mais excusez-moi, je prends un ton un petit peu aigre quand je parle des médecins. Mais pour les médecins, la langue des signes est l'ennemi du français. Tous les ORL que j'ai pu rencontrer me disaient surtout pas la langue des signes.
À vous, ils vous disaient ça?
Oui, oui. Ils savaient bien mieux que moi ce que c'était que la surdité. Sachez-le.
Oui. Et ça, c'est un cas qui n'est pas isolé, selon vous?
Ah non, bien du tout. C'est très fréquent. En tout cas, ce que je trouve étonnant, c'est que quand vous allez chez un ophtalmologue, vous voyez souvent des porteurs de lunettes chez les ophtalmologues. Mais quand vous allez voir un ORL, vous ne voyez jamais de porteurs d'implants cochléaires ou d'appareils auditifs. Pourquoi? Pourtant, il y a bien 5 millions de devenus sourds en France. Ils me demandent pourquoi. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que la surdité, c'est vraiment les sourds et les malentendants, pas les médecins.
Emmanuelle Laborie, évidemment, cette comédienne qui était l'invitée des maternelles, c'était en novembre 2014. On va l'écouter parler justement de sa découverte de la langue des signes dans la voix de sa traductrice.
C'est une langue que l'on peut partager, la langue des signes. Avant, c'était moi, la communication avec mes parents était très limitée. Je ne pouvais pas communiquer avec d'autres personnes parce qu'on ne me comprenait pas. Ma voix est très particulière, je n'ai pas beaucoup de vocabulaire, alors que la langue des signes m'a permis de m'ouvrir au monde entier. Oui. C'est vrai que la langue des signes est une langue esthétique, mais pas uniquement. C'est également une langue de communication. C'est une langue d'épanouissement. Voilà.
Ça se voit.
Voilà. Une langue de communication et d'épanouissement. La langue des signes pour Emmanuelle Laborie, j'imagine, Mélanie, que vous partagez le même sentiment.
Absolument. Quand j'ai commencé à apprendre la langue des signes, quelque chose s'est ouvert en moi.
Et vous l'avez apprise à quel âge?
Vers 20 ans.
20 ans, c'est tard?
Absolument. Je n'avais pas l'occasion avant.
Ouais.
J'ai grandi au milieu d'une famille entendante. Très bienveillante et trilingue, mais à l'âge de 7 ans, quand mes parents ont appris que j'étais malentendante, à Noël, a dit à mon père, cessez de parler l'alsacien, cessez de parler l'allemand, parlez juste le français avec elle.
Ouais. Donc là, Nicolas Tournard, on est face à un vrai problème quand même, sur l'accès à cette langue pour les malentendants eux-mêmes, ce qui est quand même sidérant, non?
Bien sûr, et ça c'est un des paradoxes, c'est qu'effectivement, on est en train même de fermer des structures de plus en plus, des institutions, et il y a de moins en moins de possibilités, alors même que la langue des signes, que ce soit à l'université, que ce soit partout dans le monde, suscite un vrai engouement, parce qu'on a un rapport au langage qui est différent en utilisant les gestes, et donc il y a un vrai intérêt, mais par ailleurs effectivement il y a cette espèce de peur dont parle Mélanie, de peur du bilinguisme, de glottophobie plus généralement, qui est très très répandue.
Mélanie Anne.
Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on attachait les mains des sourds au dos pour qu'ils n'oralisent pas, pour qu'ils ne gestualisent pas, pour qu'ils oralisent. Donc, en France, c'est ça aussi, c'est le tout oral. Il faut parler, il faut juste parler. Tout est, c'est comme si c'était la seule issue et solution pédagogique.
Ouais, et tout ça est très récent, Dominique Proust.
Oui, et je voudrais citer un exemple sur l'universalité de cette langue des signes. Actuellement, l'Union Astronomique Internationale, qui regroupe tous les astronomes du monde entier, a un département auquel je travaille actuellement, qui consiste à mettre sur ordinateur les différents objets du ciel, que ce soit les planètes. Et pour chaque pays, il y a une représentation en langue des signes qui est puisée dans la tradition de chaque pays pour pouvoir faire une homogénéisation des choses.
Ludovic demande, est-ce qu'il existe un anglais de la langue des signes, donc une langue universelle ?
Alors, le projet de Ludwig Laser-Zamenhof, l'espéranto, finalement, à l'oral, a été remplacé par l'hyperlangue qu'est l'anglais. Mm-hmm. Mais une langue des signes internationale est en train d'émerger à l'heure actuelle. Et d'une certaine façon, elle est promise à un certain succès si elle arrivait vraiment à se répandre, parce que ça permettrait, de façon à moindre frais, d'arriver à communiquer un peu partout dans le monde par les signes. Et on le voit là maintenant avec le récent mouvement Nuit Debout, beaucoup de gestes sont employés. On voit qu'il y a, nous en tant que sapiens, on a, évidemment on parle, mais on a toujours de toute façon utilisé les gestes, et la gestuelle a toujours été important. Et donc une langue des signes, une vraie langue des signes internationale, ça permettrait aussi de développer la communication dans le monde entier d'une certaine façon.
Ludovic demande si on invente facilement des mots dans la langue des signes, Mélanie.
La langue des signes est foisonnante de néologismes qui n'apparaissent pas dans les dictionnaires, les quelques dictionnaires qui existent sur la langue des signes. On ne les voit pas, ces néologismes.
Ouais. Il y a beaucoup de messages des auditeurs, donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à poursuivre justement le dialogue sur le site de la Tête au Carré, d'autant qu'il y a pas mal de personnes qui envoient des pistes pour apprendre la langue des signes, pour donner des structures qui existent déjà en France. Il y a pas mal d'associations, il y a Visuel LSF par exemple, qui organise un peu partout des cours, des stages pour les vacances scolaires, donc n'hésitez pas à aller sur le site, échanger ensemble. Dominique Proust, on peut dire juste un petit mot sur La Main à la Pâte, qui a fait aussi tout un travail en direction des personnes handicapées.
Oui, donc cette fondation qui remonte à Charpak et Pierre Léna a un département qui forme les enseignants pour s'adapter aux différentes formes de difficultés, et notamment que ce soit la langue des signes, il y a une formation spécifique qui est relayée par le bulletin de l'Union des physiciens.
On trouve voilà, sur le site. Tout ça, c'est en lien sur la Tête au Carré. Écoute, Mélanie Hamm, vous signez ce livre touchant aux éditions Caleva, il doit être toujours disponible, et puis Les Mains dans les Étoiles, c'est ce dictionnaire Dominique Proust autour du langage de l'astronomie en langue des signes chez Burillier. Et puis Nicolas Tournard, toujours Le Prisme des Langues, on en avait parlé avec vous aux éditions L'Asiatech.
On paraît la deuxième édition très bientôt.
Merci beaucoup à tous les trois, à très bientôt.
Merci. Merci.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Pierre Barthélémy, bonjour.
Bonjour.
De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ?
Je vais vous parler de la myoclonie phrénoglottique. Savez-vous ce que c'est, la myoclonie phrénoglottique ?
Non, pas vraiment. De quoi s'agit-il ?
Alors, la myoclonie phrénoglottique, j'adore le dire, c'est le nom savant du hockey, pas le sport, mais la contraction qui vous fait faire hic.
D'accord.
Mais il y a hockey et hockey. Il y a celui qui passe au bout de quelques instants et celui qui s'installe dans la durée, des heures, des jours, des années, des décennies, même le record étant de 68 ans.
Affreux.
Oui, affreux. Le hockey tenace, le coriace, qui résiste à tout, aux médicaments et aux méthodes de grand-mère. Vous pouvez demander qu'on vous fasse bouh. Vous pouvez stimuler votre pharynx, avaler deux cuillères de sucre ou de la glace pilée, boire un grand verre d'eau, retenir votre respiration, vous masser le sternum, etc. Mmh. Rien ne changera, vous ferez toujours hic.
Bon, vous avez déniché une solution originale parce que c'est embêtant, par exemple, à l'antenne quand on a un direct, quand ça arrive.
Oui, j'ai trouvé une étude israélienne publiée en 2000 dans une revue intitulée « Le médecin de famille canadien », ça existe. Deux médecins y racontent l'histoire d'un homme de 40 ans qui avait mal au dos. Alors, après avoir pris des anti-inflammatoires, après avoir vu un spécialiste des médecines dites alternatives, le tout en vain, il se décide à consulter un vrai médecin qui lui injecte un petit cocktail de corticoïdes. La douleur s'évanouit rapidement, mais 6 heures plus tard se déclenche un hoquet persistant qui dure et qui dure et qui dure. Alors aucun traitement médicamenteux ou folklorique ne fonctionne et notre homme devient anxieux, incapable de travailler ou de dormir. Et après 4 jours de ce régime, ce brave garçon décide d'avoir un rapport sexuel avec son épouse. On imagine la scène, je crois. Hic, chérie, hic, que ça va hic, me faire du bien. Pendant le temps qu'a duré la chose, notre pauvre homme a continué de hoqueter et l'étude ne dit pas si ces spasmes perpétuels ont été un plus dans cette activité déjà assez spasmodique. En revanche, Il est écrit noir sur blanc que lorsque l'éjaculation est survenue, le hockey a disparu d'un seul coup.
Ah, mais
si
voilà
je peux
la solution.
Permettre l'expression.
Mais bien sûr.
Un an plus tard, il n'était toujours pas revenu.
Eh bien, les médecins non plus n'en sont pas revenus, alors, visiblement.
Et non, Mathieu, jamais il n'avait vu une guérison pareille et jamais la littérature scientifique n'en avait parlé. Le mystère reste entier sur le mécanisme qui a bien pu couper le sifflet de ce hockey. Et dans leur conclusion, tout en se demandant si la méthode pourrait aussi fonctionner chez les femmes, les deux auteurs de l'étude tentent de rester pragmatiques. Ils écrivent, je cite, « Si un rapport sexuel avec un partenaire s'avérait impossible, la masturbation pourrait être tentée comme un moyen de stopper un hockey réfractaire. » J'aimerais bien voir l'ordonnance du médecin. Oui. La bonne nouvelle, c'est que rien ne sortira des bourses de la sécurité sociale.
Bien sûr, on retrouve cette chronique dans le supplément Science et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre au menu de ce supplément, mon cher Pierre ?
Alors cette semaine, le grand dossier est consacré à la neuroéducation. Est-ce que connaître le fonctionnement du cerveau peut permettre de mieux enseigner à l'école ?
Merci beaucoup. Fabrice Aurel, bonjour. Très vite, on est en retard.
Oui,
affaire sensible.
J'ai cassé l'ambiance, moi, parce que je vais raconter de Tchernobyl, oui. Il y a 30 ans et un mois. La pire catastrophe nucléaire de tous les temps. Avant la prochaine, notre invité sera Véronica. Bah oui, écoutez, nous sommes assis sur un volcan. Hein. Notre invité aujourd'hui, Véronica Dormant, correspondante à Moscou du journal Libération, notre partenaire.
Allez, à tout à l'heure.